L'enseignement en France multiplie les diplômes. Trop de jeunes s'engouffrent dans des impasses. Trop de profs sont déconnectés de la réalité. Trop d'entreprises attendent tout du monde de l'école.
Rue des Entrepreneurs.
Paradoxe sur paradoxe. On n'en est plus à un prêt. 93% des Français sont favorables à ce que l'on parle de l'entreprise aux enfants. C'est un plus, dit-on, pour leur avenir professionnel. Mieux, ils sont tout aussi nombreux à considérer qu'un entrepreneur est sûrement le mieux placé pour parler de son entreprise et de la façon dont il l'a créée. Mais il faut bien observer qu'on en est encore au stade des bonnes intentions. L'image de l'entreprise est toujours caricaturale et les notions les plus élémentaires de l'économie toujours aussi absentes. Parallèlement, les entreprises regrettent la faiblesse du niveau de leurs jeunes recrues qui n'ont pas de savoir-faire, pas plus que de savoir-être. Discours qui masque la réalité d'un chômage dont personne ne voit la fin. Faut-il s'attacher aux palmarès et classifications des écoles et des universités mondiales? Faut-il pratiquer l'autoflagellation? S'il faut déplorer les échecs aux formations universitaires ou l'affluence inquiétante vers des formations sans avenir, il faut aussi s'interroger sur l'attractivité des entreprises. Écoles, entreprises, deux mondes qui s'ignorent. C'est le dossier de rue des entrepreneurs aujourd'hui. Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour.
Le dialogue de sourds entre enseignants et employeurs ne date pas d'hier. Il y a des décennies que chacun renvoie la responsabilité sur les autres. Des patrons qui disent que les formations ne sont pas adaptées à leurs besoins. Des enseignants qui crient haut et fort que leur mission n'est pas de produire du prêt-à-porter pour les entreprises. Débat au fondement idéologique est toujours d'actualité, mais un débat stérile. Pour Françoise Coquel, la présidente du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui dirige une imprimerie en Île-de-France, il est urgent de dépasser les querelles et d'avancer.
Quand vous dites le chef d'entreprise attend de l'école qui forme finalement un jeune à un métier, pourquoi il a ce souci-là? Parce que quand il va intégrer son jeune, ce jeune va être en capacité de répondre à sa demande rapidement. Et par ailleurs, effectivement, le chef d'entreprise peut déplorer que l'école ne formate pas un produit, je dirais, clé en main, qui soit susceptible de rentrer dans son entreprise. Donc ça, c'est le constat de part et d'autre. Maintenant, une fois de plus, soyons pragmatiques et voyons un petit peu comment on pourrait faire avancer les choses. Je pense que, je vais évoquer, vous savez, toutes ces filières, parce que BTS, IUT, on sait qu'on est dans la logique d'acteurs et de concertation entre les besoins de l'entreprise et de l'école. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur toutes ces filières que suivent des centaines de milliers d'étudiants chaque année. Et quand ils arrivent à la fin de leur cursus, ils ouvrent la porte et ils tombent dans le vide. Parce que derrière, il n'y a pas d'emploi. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, on peut essayer d'être imaginatif et sans pour autant révolutionner l'ensemble. Un chef d'entreprise, quand il cherche une compétence pour son entreprise, un potentiel, il va chercher une tête bien faite, quelqu'un qui sait analyser, qui est créatif, etc. Ça, l'école, ces filières-là, ils savent la mener. Ce qui manque finalement, c'est la finalisation du parcours, le lien entre ce parcours très général et le monde de l'entreprise. Alors, je dirais, prenons nos responsabilités de façon commune. Demandons à ces facultés qui sont sur des territoires de se mettre en rapport avec des entreprises de leur territoire ou du secteur national. Et nouons de vrais partenariats qui nous engagent mutuellement les uns et les autres. La responsabilité du chef d'entreprise, c'est bien aussi d'avoir un prévisionnel sur ses embauches, la dernière année par exemple, pour permettre à ces jeunes d'être en alternance avec le monde de l'entreprise. Ce qui voudrait dire qu'on aurait l'éducation nationale qui continuerait à formater un bon esprit, un bon raisonnement, une bonne analyse, et cette dernière année permettrait à l'entreprise à moindre coût de mettre en relation ce jeune avec ses attentes et de le préparer à un métier.
Mais qui paierait alors ? L'État ?
Qui paierait ? Mais je crois que ça coûterait moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui que de faire ça la dernière année. De mettre en alternance, un peu comme le fait l'Allemagne, les élèves qui aujourd'hui sortent sans aucune... je dirais sans aucune qualification pratique du monde de l'économie. Aujourd'hui, ils n'ont rien derrière. Quel est le coût aujourd'hui de ce jeune qui se retrouve sans rien? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une jeunesse, 23% de nos jeunes surtout 40% en fait des jeunes de banlieue, hein, qui se retrouvent sans emploi, sans possibilité de se projeter dans l'avenir, eh ben, je crois qu'au regard de ce coût-là, le coût de financement, de prise en charge par l'État de ce jeune à mi-temps dans l'entreprise la première année, eh ben, ce ne serait pas grand-chose.
Françoise Coquel, vous disiez tout à l'heure, nous au CJD, on est pragmatiques. Soyons un peu plus concrets. Est-ce qu'aujourd'hui et demain encore plus, les entreprises auront besoin plus de savoir-être que de savoir-faire? Parce que finalement, tous les chefs d'entreprise souvent sont un peu frappés, vous parlez des jeunes de banlieue, mais aussi des diplômés, des bacs plus 4, plus 5. Quand ils arrivent dans le monde du travail, ils n'ont pas la notion du temps, de l'urgence, pas la notion. Regardez, il y a des entreprises qui donnent des cours d'orthographe à leurs cadres. Donc là, on se demande quand même s'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas.
Tout à fait d'accord. Vous savez, rien que nous, chefs d'entreprise, au CJD, on a développé une formation uniquement sur... Quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise? Parce que le monde se complexifie tellement que être chef d'entreprise, finalement, c'est pas inné, quoi. Ça s'apprend. Et on a beaucoup travaillé sur les savoir-faire et les savoir-être. Parce que finalement, vous savez, la lecture d'un bilan, comment développer un produit, etc. Tout ça, ce sont des savoirs de compétences qu'on peut acquérir facilement. Finalement, il faudrait se détacher de la culture de diplôme qui est très marquée en France. Il faut que vous sachiez qu'en France, on est peut-être le seul pays au monde qui attachons autant de prix à un diplôme. Et dans les autres pays, comment ça se passe? Comme dans les pays anglo-saxons, c'est exactement ce que vous décrivez. Quels sont mes savoir-faire? Quels sont mes savoir-être? Quelles sont mes expériences professionnelles? Et c'est comme ça qu'on recrute quelqu'un. On recrute un potentiel. Mais nous, chefs d'entreprise, si vous voulez, on est autant fautifs. Parce que, surtout les chefs d'entreprise de PME, je dirais, parce qu'on n'est pas des professionnels du recrutement. Ce recrutement, il s'additionne à toutes les casquettes que l'on a dans l'entreprise. Donc, il faut impérativement que les chefs d'entreprise de PME professionnalisent aussi leur façon de recruter.
Les grandes entreprises sont naturellement plus rodées que les petites et elles ont plus de moyens de professionnaliser, bien sûr, leur recrutement. Certaines d'entre elles ont su, depuis plusieurs années, monter des partenariats utiles, même féconds. Exemple, l'expérience du campus Veolia Environnement, où l'on prépare au diplôme universitaire gestion des services urbains en partenariat avec l'université de Cergy-Pontoise et la chambre de commerce et d'industrie Versailles-Val-d'Oise-Yvelines. Bernard Mazingue, directeur adjoint du campus Veolia.
Nous y accueillons en ce moment plus ou moins 700 apprentis de tout niveau, c'est-à-dire du niveau du CAP jusqu'au master. Nous avons principalement deux dispositifs, c'est-à-dire une licence professionnelle et un master professionnel que nous avons construit en coopération, en partenariat avec des universités sur les métiers de notre groupe, hein, c'est-à-dire les métiers de la gestion déléguée de services à l'environnement. Et on a construit ces dispositifs et on y accueille aussi bien des apprentis, donc des jeunes qui sortent de l'université, et puis des cadres de notre groupe en formation continue, dans un mixte qui est, en tant que tel d'ailleurs, profitable, vous voyez, bien sûr.
Oui, alors donc en d'autres termes, vous ne recrutez pas n'importe qui, ils ont déjà en principe un solide bagage, et vous trouvez le moyen derrière d'avoir, allez je vais mettre des guillemets, votre propre université pour leur apprendre des choses en plus. Donc ça ne sert pas à grand-chose, la formation initiale?
Si, ça sert les formations universitaires sont de bonne qualité. La question, c'est que ce diplôme, qui est un diplôme universitaire, prépare à notre métier, à nous. Et c'est là où c'est intéressant qu'il y ait une coopération entre un groupe comme le nôtre et l'université. Il prépare à notre métier, à nous, qui est le métier particulier de la gestion des services à l'environnement auprès des industriels et auprès des collectivités territoriales. C'est ça, on a un métier, nous, qui a une originalité. Et donc, on a demandé, en partenariat avec l'université, de nous construire des diplômes qui ne sont pas ouverts qu'à nos cadres, d'ailleurs, hein, qui peuvent aussi être, bien sûr, fréquentés par des étudiants lambda, j'allais dire, qui préparent au métier de la gestion déléguée de services à l'environnement, quoi.
Donc, il y a une formation spécifique à vos métiers. On est dans le technique, mais pour certains de ces jeunes, c'est aussi une première embauche, ou ça peut déboucher sur une première embauche. Est-ce qu'il y a une formation un peu savoir-être, indépendamment du savoir-faire, donc d'une meilleure connaissance de l'entreprise, puisqu'on sait qu'en France, ça fait un peu défaut, ça?
Alors, c'est ambigu le terme de savoir-être, c'est-à-dire que la compétence d'un cadre chez Veolia en relation avec les collectivités territoriales et à l'écoute de ses clients Et pour avoir l'intelligence de ses clients, ça nécessite de savoir développer du savoir-être. Donc c'est pas une c'est une compétence professionnelle parmi d'autres. Et effectivement, à ce titre-là, elle est aussi travaillée par elle est aussi travaillée dans le cadre de ses cursus. Alors elle est travaillée comment? Elle est travaillée à l'occasion de par exemple, on va faire une simulation sur des gestions de risques, qui est quand même quelque chose d'important dans nos métiers. Et donc ils se forment à la gestion des risques avec nos partenaires universitaires. Et là on fait des simulations de situations de crise et dans lesquelles ils vont avoir à adopter des comportements, c'est-à-dire des savoir-être pertinents par rapport à cette situation-là, dans leurs relations à l'intérieur avec leurs équipes et dans leur relation avec l'extérieur, avec les collectivités, avec le préfet, avec les autorités compétentes.
Et dans la mesure où les programmes sont co-construits entre vous et l'université, il est évident à ce moment-là que tout s'enchaîne parfaitement.
Parfaitement, c'est un vrai travail avec eux, c'est-à-dire ça s'improvise pas, ça nécessite du respect commun des deux partenaires et que chacun prenne en compte effectivement les objectifs qui sont, c'est un master et une licence professionnelle, c'est-à-dire visant une professionnalisation. Et donc cette coopération entre nous et l'université, c'est cette dynamique-là qui fait la qualité de la formation professionnelle. Mais il faut bien respecter, et il faut que l'entreprise sache respecter l'excellence académique de l'université, et réciproquement que l'université sache respecter les connaissances professionnelles de nous-mêmes et de nos collaborateurs.
Madame Mazin, vous avez parlé de respect commun, ça se traduit comment, respect commun?
Le respect commun, c'est de dire que dans un dispositif de formation de type, par exemple, un master professionnel, les universitaires ont des choses à apprendre à nos étudiants que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Et réciproquement, que nous sommes capables d'apporter des connaissances et des savoir-faire à ces étudiants que l'université ne sait pas faire parce qu'on n'est pas placé aux mêmes endroits. C'est ça, je veux dire, c'est le respect commun, c'est l'acceptation de la valeur ajoutée de l'autre quoi, dans le dispositif.
Quand on sort, quand ils ont leur diplôme, soit en tant qu'apprenti, soit en tant qu'universitaire, ils sont engagés chez vous? Garantie d'emploi?
Les apprentis, oui, on s'engage, le groupe Veolia s'engage à les recruter en contrat à durée indéterminée s'ils ont réussi le diplôme qu'ils préparaient.
Mais il a fallu donc une sélection en amont. Vous les avez choisis. Tout le monde ne peut pas venir.
Oui, enfin, il y a un processus, bien sûr. Ça dépend d'ailleurs, parce qu'il y a des cursus dans lesquels on n'a pas un nombre effarant de candidats. Donc les sélections n'est pas aussi drastique que ça. Mais il y a effectivement des choix qui se font. Ouais, parce qu'on ne peut en prendre que 90, on ne peut pas en prendre 300.
Alors, cette coopération, Bernard Mazingue, a l'air de bien fonctionner depuis un certain nombre d'années. Pourquoi finalement tout le monde ne fait pas ça?
Ouais, parce que je pense que tout le monde n'a pas l'intelligence de le faire. Et puis, je pense que...
Non, mais il y a encore des rivalités quand même entre les deux mondes, des incompréhensions.
Voilà, je pense que... Et je dis bien les deux partenaires, c'est-à-dire les entreprises et les universités, doivent faire réciproquement et au même moment l'effort de se comprendre et donc de découvrir qu'ils ont intérêt à travailler ensemble. Alors, ça nécessite deux conditions. Un, c'est que les deux partenaires aient envie d'écouter et de travailler avec l'autre. Et puis la deuxième condition, c'est qu'ils aient envie de le faire au même moment. Donc voilà. Mais nous le faisons depuis maintenant, ça fait donc 12 ans que nous travaillons avec l'université, et nous sommes ravis, nous sommes contents de le faire, et nous avons appris à le faire. Voilà. Il faut apprendre aussi à travailler avec un partenaire qui n'est pas effectivement dans les mêmes états d'esprit et qui n'a pas les mêmes finalités que nous. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble. Mais ce partenariat est utile et fécond.
Que valent encore nos universités? C'est la question que pose notre confrère en jeu Les Échos à la une de son édition d'avril 2006. La façon de poser la question induit la réponse et l'hebdomadaire Le Point enchaîne en enquêtant sur l'éducation nationale que certains accusent de fabriquer des crétins, des précaires et des chômeurs. Les violences en banlieue de novembre et les manifestations anti-CPE ont remis sur le tapis la question du rapport coût-efficacité de notre système éducatif. La formation, ce n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. François Langlais, directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos.
La France dépense 4 fois plus pour un lycéen que pour un étudiant.
Donc c'est bien pour le lycéen, mais c'est pas trop bien pour l'étudiant.
Absolument. Et c'est vraiment une spécificité de la France. Quand on regarde l'ensemble de l'argent qui est dépensé pour le supérieur, c'est 1,1% du PIB, alors que la Turquie, qui est le pays qui nous précède de peu, c'est 1,2, que le Danemark, c'est 2,7. Tous les pays de l'OCDE dépensent davantage. Et de surcroît, ces ressources sont utilisées de façon très inégalitaire parce que 4% seulement des étudiants concentrent 30% des moyens. C'est les étudiants dans les grandes écoles françaises, les filières d'excellence. Les autres, ils sont entassés dans la bétaillère, c'est-à-dire l'université massive qui forme les gens un petit peu sans avoir suffisamment de moyens et évidemment sans être connectés au marché du travail. Ce qui fait que la plupart des gens qui sortent des filières littéraires, entendues au sens large, soit ne trouvent pas facilement d'emploi, soit ils trouvent un emploi qui ne correspond pas évidemment à leur qualification.
Alors François Langlais, il y a combien de temps que ce constat est fait ? Ce n'est pas aujourd'hui et depuis le temps, on arrive à se dire, manifestement, l'université n'a que ce qu'elle mérite. L'université, pourquoi faire puisque ça ne débouche sur rien ?
Oui, ça fait en fait la crise fondatrice, c'est celle de 68. Et en 68, on prend un certain nombre de mesures pour changer la structure de l'université. On fragmente les universités, on construit Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Paris de 1 jusqu'à 13, etc. Et puis, on met en place un système de gouvernance par élection. Élection par les étudiants, élection par les enseignants et par le personnel administratif. Et aujourd'hui, l'université française souffre de tout cela parce que cette fragmentation fait qu'elle est très difficile à repérer dans les classements internationaux. Et puis, cette lourdeur de décision fait que le patron de l'université n'a pas véritablement d'autonomie. Il n'est pas à même de choisir les enseignants qu'il souhaite et il n'est évidemment pas à même non plus de sélectionner les étudiants.
Vous avez évoqué, François Langlais, les classements internationaux. Parlons du classement de Shanghai, celui qui a fait jeter le fameux pavé dans la mare.
Et qui disait que le premier établissement français était à la 46e place de ce classement.
Oui, ça a été un véritable choc, un double choc d'ailleurs, parce que c'était Shanghai qui le faisait, donc une ville chinoise d'un pays dont les universités étaient réputées médiocres. Ça a fait un petit peu le même choc que ça, Mittal face à Arcelor.
C'était un bon coup de pub pour l'université de Shanghai, oui, qui n'existait pas en termes d'image.
C'est vrai, c'était aussi le signe que les pays émergents étaient eux-mêmes capables de faire une hiérarchie internationale des universités.
Sur quels critères, si ce n'est la publication dans 3 revues scientifiques uniquement, ce qui est quand même un peu limité.
C'est pas les seuls critères. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer ces critères. Tout classement comporte une part d'arbitraire. Reste qu'aujourd'hui, ce classement est en passe de s'affirmer comme étant le seul. Et quand on regarde la position des Français, effectivement, la première université, c'est l'université de Paris 6, elle arrive à la 46e place, donc c'est très médiocre. La première grande école classée, c'est Normale Sup, elle arrive à la 93e position sur 500. Donc c'est évidemment des classements qui sont désastreux. Vous le disiez, c'est vrai que le classement, disons, l'un des critères, c'est le nombre de publications dans les revues internationales, et c'est un critère qui dessert la France compte tenu de l'émiettement des établissements. À Lyon, par exemple, où il y a énormément d'établissements du supérieur, il y a 45 façons de signer un article dans une revue internationale. Donc évidemment, tout ce qui est... Enfin, c'est très difficile de comptabiliser de la même façon que Harvard, qui occupe la première place du classement. Les 10 premières places du classement international de Shanghai sont occupées pour l'essentiel par des universités américaines et pour 2 cas, Oxford et Cambridge, par des Britanniques. Donc c'est aussi une leçon à prendre. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'universités françaises qui tâchent de se regrouper avec ce qu'on appelle les PRES, hein, PRES, qui sont issus de la dernière réforme et qui visent à coaliser tous les enseignements supérieurs d'une région ou d'une ville avec les laboratoires de recherche de façon à peser davantage dans le jeu mondial.
École, entreprise, deux mondes qui s'ignorent. C'est le dossier de Rue des Entrepreneurs, à podcaster sur franceinter.com. Dominique D'Ambert, Didier Hadès.
De réforme avortée en réforme déformée, l'éducation nationale n'en finit pas d'essayer de s'adapter à un monde en perpétuel changement. Les critiques fusent, les ministres tombent, et l'on en oublie des pôles d'excellence reconnus à l'étranger et très méconnus en France, comme l'Institut d'économie industrielle de Toulouse, centre de recherche de l'Université de Toulouse 1, l'Université des sciences sociales. Il est vrai que pour que ce centre d'excellence existe, eh bien, il a fallu pratiquer le système D, en l'occurrence passer par le biais d'une association formation. Nous en parlerons tout à l'heure. Le classement de Shanghai, le classement des 500 premières universités mondiales, nous provoque en France. Mais d'autres classements, comme celui de l'association des PhD d'économie, placent le centre de recherche de Toulouse 1 sciences sociales dans les 5 premiers mondiaux et même, sur certaines disciplines, en deuxième position, devant Harvard, devant Stanford, devant Yale, la London School of Economics ou même Chicago. À Toulouse, on fait de la recherche fondamentale en économie, en liaison avec de très grandes entreprises ou des institutions internationales, comme le FMI, des partenariats qui ne sont pas faciles, d'ailleurs, à mettre sur pied. Jacques Crémer, directeur de l'Institut d'économie industrielle.
Quelques partenariats que j'ai mis sur place, on peut compter sur entre 1 et 3 ans de discussion. Donc, c'est pas facile. Bon, surtout, on leur demande quelque chose qui est différent de ce dont elles ont l'habitude. C'est-à-dire, ce sont des relations à long terme. Avec des gens qui sont des chercheurs, donc qui ne répondent pas à la minute, qui ont des opinions souvent très arrêtées, donc qui ne sont pas prêts à dire tout ce qu'on veut qu'ils disent. Donc il y a une espèce d'apprentissage. Mais une fois qu'il est établi, ça se passe très bien. Nous avons très, très peu de partenaires qui nous ont quittés depuis le début de l'Institut. C'est quelque chose qui marche très bien une fois que c'est établi, mais ça prend du temps à faire monter la mayonnaise.
Alors, c'est pas nous qui allons vous apprendre qu'il y a cette espèce de réticence, voire d'ignorance, entre le monde de l'université et de la recherche d'un côté, le monde de l'industrie de l'autre côté. Quand vous arrivez à vous retrouver, c'est parce qu'il y a ces méfiances à surmonter que ça prend 2-3 ans pour arriver à construire un partenariat, Jacques Crémer ?
Ça, mais même avec des partenaires qui connaissent mieux l'université, bon, par exemple, souvent nos partenaires étrangers ont beaucoup de relations universitaires. Il y a le fait de ce modèle de partenariat à long terme qui aussi prend du temps. Mais c'est vrai qu'avec les partenaires français, il y a plus de méconnaissance de qu'est-ce que c'est que l'université.
Et vice-versa,
oui, mais enfin, pas de notre point de vue. Nous, on commence à bien connaître qu'est-ce que c'est que les entreprises. On y passe quand même pas mal de temps.
Et pour cause.
Et on discute beaucoup avec elle. Donc, dans notre cas, il n'y a pas le vice-versa. Mais c'est vrai qu'en général, il y a le vice-versa.
Mais comment vous expliquez ces ignorances, voire ces mépris ?
Il y a des problèmes, si vous voulez, qui sont d'abord dus au fait que ce sont des mondes différents. Hein. Donc, chaque fois qu'on a deux mondes différents qui se rencontrent, il y a une mauvaise compréhension. Le monde des médias et le monde de l'université ne se comprennent pas très bien. Le monde des médias et le monde de l'entreprise ne se comprennent pas très bien. Il y a en plus un problème spécifique français, qui est que l'université française est un peu en marge de la société. Les élites françaises passent par des grandes écoles, ne passent pas par l'université. Ce que l'université peut apporter de spécifique, à savoir cette relation entre l'enseignement, la recherche, est quelque chose que les élites françaises ne comprennent pas très bien.
Mais après tout, pourquoi les entreprises partenaires qui sont les vôtres, qui sont quand même de grandes entreprises, très grandes entreprises même, pourquoi auraient-elles véritablement besoin d'une structure universitaire ? Après tout, elles ont leur labo et elles savent débaucher ou utiliser à temps plus ou moins partiel des chercheurs de talent.
Oui, bon, ce que l'université offre, c'est d'abord un lien avec la recherche fondamentale qui, dans le domaine de l'économie, n'existe pas dans les entreprises. Et ça, c'est vrai de partout dans le monde. D'autre part, avoir des liens institutionnels avec une université est très différent des liens qu'on peut avoir avec un chercheur sur un point privé. Il y a une compétence à long terme qui s'acquiert dans un groupe. Il y a des liens avec toute la communauté universitaire plutôt qu'avec un seul chercheur, que nos partenaires, en tout cas, trouvent de la valeur.
Alors, donnez-nous justement, Jacques Crémer, quelques exemples de collaboration que vous menez avec les entreprises, notamment sur la recherche fondamentale ou la recherche théorique en économie. On a l'impression que l'entreprise, c'est plutôt le lieu du pratique et du pragmatisme.
Un exemple très clair de lien entre la recherche fondamentale et le besoin des entreprises a été dans le cadre de notre partenariat avec Visa. Nous avons un partenariat avec Visa International, qui est basé à San Francisco. Et un des problèmes de Visa est d'expliquer...
Visa, la carte bleue.
La carte bleue, oui. Et d'expliquer aux régulateurs quel est leur mode de fonctionnement, quel est leur business model, pour employer du franglais, ce que j'aime pas beaucoup faire. Et une des caractéristiques de Visa, c'est qu'ils ont deux types de clients. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois vous et moi. Hein, il faut nous convaincre d'avoir une carte Visa dans notre poche. Et puis, ils ont aussi les commerçants. Il faut convaincre votre restaurant favori d'accepter la carte Visa que vous avez dans votre poche. Et l'Institut d'économie industrielle, en travaillant avec Visa, en discutant avec Visa, s'est rendu compte que ce genre de marché n'avait pas été bien exploré par la théorie économique Et il y a toute une théorie de ce qu'on appelle les marchés double biface en français, double-sided markets en anglais, qui a été développée, qui est devenu un domaine de recherche très important et qui a été développé en partie, enfin en grande partie par les chercheurs de l'Institut. Maintenant, ça s'est réparti un peu partout dans le monde à cause de nos relations avec Visa. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, de lien très clair entre la recherche fondamentale. Alors, on pourrait aussi donner l'exemple, par exemple, de la Poste. Nous avons des relations avec la Poste française et Royal Mail. Et nous avons fait beaucoup de travail fondamental sur l'économie du secteur postal grâce à nos partenariats avec ces deux entreprises.
Jacques Rémer, les chercheurs ont-ils l'impression de vendre leur âme au diable en s'intéressant à des problèmes très concrets? Vous avez évoqué la Poste, vous avez évoqué les cartes Visa et d'autres.
Pas du tout, hein. Enfin, vraiment pas du tout. Hein.
Ils ne sont pas du tout dans la mouvance des chercheurs et de l'université française.
Non, mais je crois que la plupart de l'université française se rend compte qu'on ne vend pas son âme en discutant avec un industriel. Alors, les entreprises y trouvent leurs intérêts. Nous ne vendons pas notre âme. Nous n'écrivons jamais rien que nous ne croyons pas. Je n'écris jamais un mot dont je ne suis pas convaincu. Et nous refuserions de travailler pour une entreprise qui nous dirait d'écrire quelque chose qui n'est pas scientifiquement établi.
Les relations entreprise-école d'ingénieurs, elles, sont courantes et anciennes. La région Rhône-Alpes a été pionnière dans ce domaine avec un militant, Paul-Louis Merlin, le fondateur de Merlin-Gérin, absorbé en 1992 par Schneider Electric. Comment marche cette collaboration et quels sont les objectifs? Exemple de l'école supérieure d'ingénieurs en système industriel avancé de Rhône-Alpes, les ISAR, avec Automatisme, c'est une filiale de Schneider Electric qui travaille ensemble sur l'électronique et l'informatique embarquée. Mode d'emploi de cette collaboration industrie-école d'ingénieurs avec André Chauvin, responsable marketing et technologie nouvelle chez Crouzet Automatisme.
C'est des collaborations qui se font de façon ponctuelle, mais tous les ans ou tous les deux ans, lorsque nous avons besoin donc de travailler dans un domaine qui peut être un peu nouveau pour nous ou bien qui peut être, externalisé en termes d'études de faisabilité. C'est pas du développement vraiment, c'est de l'étude amont qu'on peut faire avec cette école. Alors sous forme de projet industriel, par exemple, c'est la formule qu'on a choisie. On a un projet qui dure 6 mois avec 3 étudiants à plein temps. Donc 4 jours et demi par semaine, en fait, parce qu'ils gardent encore une demi-journée de cours par semaine. Donc pendant la deuxième partie de leur 4e année, c'est-à-dire de janvier à fin juin, ces 3 étudiants travaillent à 100% pour un projet industriel.
Donc ils travaillent chez Crouzet et ça leur permet
finalement... En fait, ils travaillent à l'ESISAR.
Mais ils font des allers-retours avec l'entreprise, je suppose.
Alors voilà, il y a des réunions techniques qui se font entre une personne ou deux personnes de Crouzet qui sont les correspondants industriels de cette équipe d'étudiants. Et ils font des réunions techniques à la demande de l'industriel ou à la demande des étudiants pour faire avancer le projet, mesurer l'avancement, avoir des échanges d'informations.
Mais ça veut dire que pour les étudiants, ça leur permet de se mettre dans le bain de l'entreprise quand même très vite.
Exactement. En fait, ils sont très rapidement au début du projet. On va leur présenter le cahier des charges de ce que nous on attend de cette petite étude. Et puis ils vont rapidement prendre l'entreprise pour un client vis-à-vis de ces 3 étudiants. Donc la notion de client rentre vite en jeu. D'ailleurs, le SISAR présente cette période-là comme un projet industriel pour un client industriel.
Mais comment ça se passe après? Vous les embauchez, les étudiants?
Alors non, ils ont encore 1 an à faire dans l'école.
Après. Oui, mais après 1 an, c'est dans une perspective pour vous d'embauche?
Alors ça peut se transformer comme ça. Dans la réalité, bon, on n'embauche pas à chaque fois des étudiants. Mais par contre, il arrive que déjà dans l'année qui suit, un des 3 étudiants soit pris dans l'entreprise pour faire un projet de fin d'études, c'est-à-dire encore 6 mois, mais de façon encore plus avancée sur le sujet, de façon plus précise. Mais il arrive aussi qu'il se passe rien entre les étudiants et Crouzet à la sortie, mais ça leur fait une très bonne expérience. Déjà, ils se souviennent de nous, de notre entreprise et des travaux qu'ils ont fait avec nous, parce qu'en fait, ils apprennent autant par l'industriel que par le sujet qu'il traite.
Financièrement, ça se passe comment ? Est-ce que vous, l'entreprise Crouzet, aide financièrement aussi l'école, notamment en équipement comment ça se passe financièrement ?
Oui, en fait, il y a donc le projet industriel, c'est un peu particulier. Ça se fait à l'aide d'une association qui s'appelle ADP ISAR, qui est l'association pour la promotion et le développement de l'école d'ingénieurs. Et en fait, il y a donc un contrat qui est mis en place au départ des 6 mois, donc entre Crouzet et cette association. Et donc, c'est financé, c'est-à-dire que il y a un coût pour l'entreprise qui est donc séparé en trois lots. Hein, un lot c'est comme une commande, on passe une commande avec un premier lot, un tiers qui se fait à la moitié du projet et un dernier tiers après la livraison du résultat du projet. Donc il y a quand même un aspect financement qui va pas du tout aux étudiants, mais qui va bien à l'école pour financer, entretenir les locaux, financer les appareils qui sont mis à la disposition des étudiants, donc les instruments de mesure, les laboratoires et tout ça.
Et c'est un coût important pour l'entreprise ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée sur un projet ?
C'est de l'ordre de 24 000 euros à peu près.
Et les étudiants sont rémunérés ou pas ?
Non, les étudiants ne sont pas rémunérés. Ils sont rémunérés l'année d'après quand ils font un stage en entreprise.
Dans le monde de l'université, il ne faudrait pas oublier les IUT qui ont d'autant plus de relations avec les entreprises qu'ils sont présidés par des chefs d'entreprise et que les enseignements sont définis conjointement et par l'université et par les entreprises qui anticipent bien évidemment les compétences à 5 ou 10 ans. Jacques Singer, président de l'Union des présidents d'IUT, prône la professionnalisation des universités à l'image des instituts universitaires technologiques. Il déplore que l'on oriente les étudiants en fonction des moyens d'enseignement et non pas en fonction des besoins. Les lacunes de l'orientation, c'est ce que pointe Irène Tarin, députée du Doubs, dans le rapport orientation réussite scolaire qui a été remis au Premier ministre à la fin de l'année dernière, fin 2005, un rapport qui a fait grincer des dents, en particulier du côté des syndicats. Constat et proposition, Irène Tarin.
Un conseiller d'information et d'orientation psychologue, il fait certainement bien son travail dans le sens où il écoute les jeunes. Ah, jusque-là, on est d'accord. Qu'il essaie de détecter les capacités, les souhaits des jeunes. Mais là où je trouve qu'il y a un écart qui est très, très dommageable, c'est qu'il n'y a pas cet accompagnement vers la profession choisie. Un jeune qui veut faire, je dis par exemple chirurgien dentiste, je dis n'importe quoi, pourquoi ce jeune qui exprime son souhait, qui est bon en sciences et qui est bon élève, ce jeune ne sera pas accompagné vers le professionnel qui lui montrera son travail, les avantages, les difficultés, les compétences qui sont indispensables. Bon, alors, je pense que certains conseillers d'information, d'orientation, psychologues le font. Vous savez que le nombre d'heures d'un psychologue, je crois que c'est 27h30 par semaine. Et pas forcément aux heures où c'est le plus facile pour les rencontrer. On me dit aussi que les conseillers d'information et d'orientation ne rendent compte à personne. Ils ne sont pas tenus d'avoir des résultats, ils n'ont pas de bilan à faire. Ils font leur travail, ça va bien, c'est bien, si ça va pas bien, personne ne le sait. Ce sont un peu des électrons libres. Donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de l'éducation et j'aurais bien voulu entendre des gens dire « ben non, c'est bien, ça va bien ». Je n'ai trouvé personne pour me dire « on a des satisfactions avec les conseillers d'information d'orientation ». Alors je suis désolée, je ne pouvais pas mettre autre chose dans mon rapport. Mais je crois qu'il faut absolument avoir le souci, quand on oriente des jeunes, de les brancher sur les métiers, qu'ils les voient, qu'ils fassent des stages, des comptes rendus de stages, des échanges. Et puis, il faudrait peut-être qu'on regarde de plus près que les filières qui aboutissent à une impasse soient moins abondées en élèves. Moi, je suis visitée quotidiennement par des jeunes filles qui ont appris le secrétariat. Il n'y a rien dans le pays de Montbéliard pour elles. En tout cas, au niveau au niveau où elles viennent me voir.
Oui, mais allons plus loin. Vous constatez, et nous constatons tous, que à la sortie du lycée ou juste après le bac, entre ceux qui ont le bac et ceux qui n'ont rien après, parce qu'ils sont rentrés dans une mauvaise filière d'enseignement supérieur, le fossé se creuse et que l'on a des gens qui sont frustrés, aigris et perdus.
Et qui, au bout du compte, n'ont que le bac.
Qui, au bout, n'ont que le bac, à qui on a dit avec le bac, surtout si tu fais un bac S, toutes les portes s'ouvriront, ce qui n'est plus exact, ce qui n'est pas exact en tout cas. Moi, mon point de vue, c'est que l'orientation doit se faire plus tôt. C'est pour ça que dans les mesures de mon rapport, il y a une mesure qu'il faut prévoir l'éducation à l'orientation dès la troisième. Il faut les 80% au bac, quand on pense que certains ne maîtrisent pas l'écriture ou la langue française, je ne sais pas si on a fait le bon choix. Seulement, s'il faut le reconnaître, il faut aussi proposer quelque chose. Je ne sais plus dans mon rapport quel est le numéro de la proposition, mais je proposais justement que ne sorte plus jamais un élève sans qu'on lui propose quelque chose, sans qu'on lui propose un stage ou la découverte d'un métier, mais surtout de ne pas le laisser sans rien lui proposer.
École, entreprise, deux mondes qui s'ignorent. C'est le dossier de Rue des Entrepreneurs à podcaster sur franceinter.com. Didier Hadès, Dominique Dambert.
Au tableau noir de l'enseignement, il y aurait avant tout des études qui débouchent sur du vide, des enseignants déconnectés de la réalité, des grandes écoles qui vident l'université de ses talents, des évaluations confuses, des réformes qui se succèdent et qui sont enterrées. Bref, un paysage bien noir que réfute le chercheur et sociologue Roger Establet, spécialiste des questions d'éducation, co-auteur entre autres avec Christian Baudelot de « Avoir 30 ans » en 1968 et en 1998 et s'est publié au Seuil. Roger Establet ne nie pas qu'il y ait des problèmes, mais on se trompe de cible.
Le problème, c'est d'abord un problème d'emploi, avant d'être un problème scolaire. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème scolaire, on peut y venir. Mais on ne peut pas s'imaginer, plus personne ne s'imagine plus en France, qu'on va résoudre le problème des 2,6 millions de chômeurs en modifiant le système scolaire. Ou ceux qui s'imaginent ça, c'est parce qu'ils pensent que c'est facile de transformer le système scolaire et c'est plus facile que de transformer la question de l'emploi. Et là, il se trompe.
Oui, enfin, la question que l'on peut se poser aussi, c'est de savoir quelle est la vocation de l'école, Roger Establet. Est-ce qu'elle est de me faire une tête bien pleine ou est-ce qu'elle est de me faire, de me donner les atouts pour pouvoir être, allez, je vais utiliser le mot, employable.
Bah écoutez, moi j'ai mené avec des collègues une longue enquête sur le questionnaire de 1998 que Mérieux a fait passer à tous les lycéens. Ce qui est frappant, c'est que ces jeunes sont, quant à eux, c'est leur point de vue qui est là, massif. Les questions auxquelles ils répondent le mieux, c'est les questions concernant l'avenir scolaire et professionnel. Donc ils ont, on pourrait dire au début, une vision utilitariste de l'école, on pourrait dire ça. Et puis quand on regarde les réponses, quand on leur demande les savoirs qui sont importants pour leur vie personnelle, eh bien ils citent en premier les sciences sociales, la philosophie, les lettres. Et ils citent de façon abondante des choses qui les ont intéressés, qui les motivent. Ils ont donc ils sont partie prenante une formation qui est, bon, bien sûr, pour les familles, bien sûr, c'est là le problème vital, c'est-à-dire il faut que cette formation aboutisse à quelque chose, mais c'est caricaturer le point de vue des lycéens et des familles que de dire qu'ils n'attendent que ça de l'école. Ça, ce n'est pas vrai. Et de plus, mes lycéens de 98, qui ressemblent fort à ceux d'aujourd'hui, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé. C'était le mot lycée. Bien sûr, le mot lycée était employé par eux très abondamment. Et nous avons regardé dans toutes les questions le mot qui était le plus souvent lié à ce mot de lycée. Eh bien, ce mot, c'est notre. Dans notre lycée, ils disent. Et j'ai regardé, ils disent plus souvent nous qu'ils ne disent je. Autrement dit, ils se sentent partie prenante. Et partie prenante, ça veut dire à la fois qu'ils font des critiques très acerbes contre les profs, contre les programmes, contre les choses inutiles. C'est des gens qui attendent beaucoup de l'enseignement. Ils n'attendent pas simplement que ça leur donne un boulot. Mais il faut d'abord que ça donne un boulot quand même. C'est, ça se comprend, le point de vue des familles et le point de vue des lycéens est très net là-dessus.
Mais ils attendent beaucoup de l'enseignement, ils attendent beaucoup de l'entreprise, c'est-à-dire un emploi. Mais dans la mesure où un certain nombre d'entre eux rallongent la durée des études, la durée des études s'allonge. Et donc il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui se disent, mais ils sont restés des années complètement déconnectés de la réalité du monde du travail. Et donc il y a un petit souci là.
Pourquoi ne les emploient-ils pas ?
Ben parce que souvent les jeunes prolongent leurs études aussi.
Et oui, on peut dire, on peut tourner ce CAS, on va tourner en rond, parce que pourquoi les jeunes prolongent ? C'est ce qu'a montré Stéphane Beau à 80% sur son livre, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat et après. Ben, il montre bien que le jeune fils d'ouvrier qu'il a étudié à Montbéliard, eh ben, il a un doc de maths, il ne trouve pas de boulot. Bon, ben, et son père lui dit, bon, à ton âge, je travaillais. Bon, un doc de maths, c'est pas mal pour un fils d'ouvrier, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Eh bien, il ne trouve pas de travail, ou il trouve des petits boulots dans lesquels il donne sa qualification n'est pas acquise. Donc son père lui dit, continue. Ben, évidemment, puisque le boulot ne correspond pas, qu'il arrive, bon, voilà, on est devant des apouris. Le problème, c'est qu'il faut absolument pour que les jeunes soient employés, pour que l'école soit rentabilisée. Tant qu'il y aura du chômage des jeunes, l'école ne pourra pas se rentabiliser, ni même, je dirais, se transformer utilement.
Mais vous avez l'impression, Roger Stablet, que ce sont deux mondes, le monde de l'enseignement et le monde du travail, qui vivent dos à dos ?
Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire ça, parce que d'abord, le monde de l'enseignement s'est transformé. Hein, on oublie souvent qu'on dit que ça ne se transforme pas. Alors c'est toujours les gens qui s'imaginent que c'est toujours pareil qu'autrefois, voyez-vous. Je vous dis par exemple, je vous ai cité le nombre de diplômes d'ingénieur, il a doublé entre 85 et 2000, quoi, 2004. Hein, donc il a doublé, c'est important. Et puis d'autre part, on a vu la création des bacs pro. Parmi ces lycéens que Mérieux avait questionnés, nous avons fait très attention aux bacs pro. Ils sont très très fiers de leur formation, ils s'intéressent aussi aux éléments généraux de leur formation et pas simplement aux éléments d'atelier, aux éléments proprement professionnels. Et donc là, on a les transformations. Le bac pro, ça veut dire on a créé ce qu'on appelle des référentiels, c'est-à-dire on a conçu un ensemble de capacités dont devait faire preuve quelqu'un qui était titulaire de ce diplôme. Et bon, il se présente dans le monde du travail. Donc on ne peut pas dire que ce soit coupé comme ça. Il y a aussi les bacs technologiques qui sont les filières technologiques du bac général qui sont développées. On a des formations universitaires d'ingénieurs. Donc le monde des entreprises change sûrement aussi. Mais on ne peut pas dire que le monde scolaire n'ait pas changé du tout.
Chaque année, c'est le même crève-cœur pour les universitaires français de voir la place dérisoire qui leur est assignée dans le classement publié par l'Université de Shanghai. Cette année, sur les 100 premières universités mondiales, 4 seulement sont françaises. Certes, ce classement annuel fait une part très belle, trop belle, au prix Nobel et valorise les grands établissements. Il privilégie aussi la collaboration université-entreprise. Le morcellement de nos universités, enfin, ne facilite pas la lisibilité mondiale. Mais, remarque Daniel Cohen, l'un de nos brillants économistes, ignorer ce classement au motif qu'il est imparfait tiendrait de la politique de l'autruche. Nous avons l'Université technologique de Compiègne en France. Nous avons la Sorbonne qui ouvre une antenne à Abu Dhabi. Nous avons, bien sûr, le Centre d'économie industrielle de Toulouse et quelques autres. Est-ce que tout ça est suffisant par rapport aux défis à relever ? Le dossier d'Enjeux les Échos conclut sur une nécessité d'efforts substantiels. François Langlais.
Soulignons que ce mouvement est relativement récent et que le classement de Shanghai, quelques critiques qu'on puisse lui faire, a justement contribué à faire prendre conscience de la nécessité de s'exporter.
Et que ce sont toujours des acrobaties quand même pour essayer de sortir des...
Très largement.
Pour aller dans les chemins de traverse.
C'est quand même un monde qui est très administratif. Et donc, quand on a la volonté, l'énergie, on y parvient. Mais ça demande beaucoup de persévérance.
Quand on a la volonté et l'énergie, vous nous avez cité un certain nombre d'exemples de gens qui avaient l'énergie, qui avaient la volonté, qui n'avaient pas plus de moyens que les autres et qui ont réussi. Alors, grosso modo, les conseils d'administration des universités françaises sont faciles
Je crois que c'est aussi le prix d'un système, si vous voulez, qui a été mis en œuvre justement après 68 et qui déresponsabilise, qui ne donne aucune autonomie et qui donne la prime au comportement moutonnier. Donc, au-delà des individus, je crois que c'est le procès d'un système qu'il faut faire. Si on donnait davantage d'autonomie aux universités de façon à ce qu'elles puissent choisir leurs enseignants, choisir leurs étudiants, on aurait très probablement des universités de premier rang mondial. Mais ça supposerait passer sur le tabou français qui est reconnaître qu'une université égalitaire n'a pas de sens parce qu'elle ne produit pas des diplômes de qualité pour tout le monde, que tout le monde n'est pas fait pour faire des études supérieures. Qui peut dire cela aujourd'hui en France ?
Nous.
Disons-le. Je crains que nous ne soyons un petit peu seuls.
Face au blocage, les initiatives tout de même se multiplient. Sans faire la révolution, on peut mettre un peu plus de souplesse dans le système. Et quand elle n'existe pas, on l'invente. Quand il a créé l'Institut d'économie industrielle, Jean-Jacques Lafont a créé une association, loi de 1901, seul moyen en particulier de sortir de la règle d'attribution des postes aux nouveaux professeurs agrégés. Lafont pensait que l'excellence ne passait pas par la cooptation. Jacques Rémer, directeur de l'Institut d'économie industrielle.
La problématique de l'agrégation est la suivante. Vous passez le concours de l'agrégation. Il y en a un concours de l'agrégation en économie qui est en train de se dérouler actuellement. Et si vous êtes reçu, vous obtenez un rang qui va de 1 à 25 ou 30 suivant le nombre de postes offerts à l'agrégation cette année. Certaines universités disent « nous voudrions avoir un agrégé qui enseigne à l'université de X ou Y l'année prochaine ». Le candidat qui a été classé premier choisit parmi toutes les universités qui ont offert un poste à l'agrégation. Après ça, le candidat classé second choisit parmi les universités qui restent et ainsi de suite. Nous trouvons que ceci ne nous donne pas assez que si nous mettions un poste à l'université de Toulouse sur cette liste, cela ne nous donnerait pas assez de contrôle sur qui vient enseigner à Toulouse. Et donc, nous ne proposons pas de poste aux agrégés de sciences économiques.
Donc, en clair, vous n'êtes pas d'accord avec le système ?
Non, je crois que le système... Bon, il y a un débat parmi mes collègues et beaucoup d'entre eux sont contre l'agrégation de sciences économiques. Il y en a d'autres qui sont partisans, disant que ça permet à des universités, à certaines universités, d'obtenir des gens qui n'ont pas été formés dans l'université, etc. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Je ne pense pas qu'il est adapté à l'université de Toulouse et il n'est pas adapté à une université qui a l'ambition de jouer les meilleurs rôles européens et mondiaux.
Allez, si je pousse un tout petit peu plus loin, vous dites... où vos collègues disent « ce n'est pas parce qu'on est agrégé qu'on est un bon prof ».
C'est pas parce qu'on est agrégé qu'on est assez bon pour être à Toulouse. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais nous avons un département qui est le meilleur un des meilleurs en Europe. Le niveau agrégation ne suffit pas pour dire « on est assez bon pour être à Toulouse ». On veut vraiment des gens qui sont parmi les tout meilleurs chercheurs.
Dans cette optique-là, Jacques Rémer, il y a chez vous le prochain Adam Smith ou John Maynard Keynes ?
Ce sera à la postérité de décider, mais il y a des... Bon, nous avons parmi nos chercheurs établis des chercheurs de niveau reconnu mondialement. Nous avons parmi nos jeunes chercheurs, certains, nous pensons qu'ils ont effectivement la capacité d'être parmi les leaders mondiaux. Bon, savoir s'ils seront Adam Smith, hein, il y a très peu d'Adam Smith.
Oui, il y en a eu un.
Qui a commencé à écrire quand même la richesse des nations à Toulouse. Hein, c'est bon qu'on s'en souvienne.
Et il faut dire que le fondateur Jean-Jacques Lafont était sur la liste des nobilisables.
Oui. Bon, Jean-Jacques était clairement un nobilisable et Jean Tirole, qui est directeur scientifique de l'Institut, est aussi sur beaucoup de listes de nobilisables.
Tout le monde ne regarde pas dans la même direction. Quand Gérard Raschieri, le secrétaire général de la FSU, le premier syndicat enseignant, pose la question « Voulons-nous, oui ou non, faire réussir tous les élèves ou préférons-nous en abandonner certains parce que la réussite pour tous revient trop cher ?» Il faut savoir de quelle réussite on parle. Est-ce que la voie royale des études n'est pas celle, tout simplement, qui prépare à un avenir ?
Rue des Entrepreneurs a été réalisée par Marie Mérier avec Lidwine Caron, Amandine Grevoz, assistante Séam Boutata, Didier Hadès,
Dominique Dambert.
Nous nous retrouverons samedi prochain et très bonne semaine à l'écoute de France Inter.
Merci Didier Hadès et merci Dominique Dambert. Notez que vous pourrez réécouter Rue des Entrepreneurs à la carte. Sur le site internet de France Inter pendant les 4 prochaines semaines, vous pouvez aussi maintenant télécharger gratuitement l'émission pendant une semaine, attention uniquement une semaine, une seule adresse, www.franceinter.com.